One, two, three, ho!
Et Lilou, tu sais à quelle valeur correspondent les couleurs du drapeau allemand?
Non.
Bon alors t'as le noir pour le travail, le rouge pour le travail, le jaune pour le travail et le bleu pour l'humour.
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 64 et aujourd'hui on va parler des néo-cyclistes, des nouveaux pédaleurs. Parce que avec
ou des anciens nouveaux.
Ou des anciens nouveaux, ouais, qui étaient petits, qui en faisaient avant, puis qui se sont remis. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment à travers le monde, le vélo, la petite reine, est la reine du monde. J'allais dire le roi du monde, mais
c'est la grande reine, en fait.
Voilà, ouais. C'est ça. Comment ça va, Arnaud?
Mais ça va très bien.
Alors, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? J'arrive pas à me mettre dans la tête ce que tu...
Ouais, non, mais écoute, moi, je vais essayer de donner quelques conseils pour se mettre ou se remettre au vélo taf.
Ah oui, d'accord.
En faisant un petit point par Genève avant. Ouais,
tu me l'as dit juste avant, j'en
ai pas.
Lilou, ça roule?
Ouais, nickel.
Alors, on va parler de Pee-wee's Big Adventure.
Oui, absolument. Un film magnifique de Tim Burton. Et puis, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous, s'agissant du vélo en Europe.
Et Kika, t'as préparé quoi?
Alors, moi, je vous ai préparé une petite rubrique avec un prix qui a été décerné à une ville. Donc vous en apprendrez plus tout à l'heure.
Surprise! On va commencer par une ville, Arnaud, Genève.
Mais oui, parce qu'avant de faire le tour de l'Europe avec Lilou, on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Donc à Genève, il y a eu des coronapistes, donc les pistes tactiques qu'on met en place pour fluidifier le transport ou les trajets des...
Comment ça, fluidifier? Je la garde où, ma bagnole, maintenant, moi?
Bah oui, voilà, c'est ça le problème. Donc il y a eu des pistes qui ont été mises en place à Genève. Suite à ça, les automobilistes, pas contents, façon Eric, qui se sont mis à râler, qui ont lancé une pétition. Suite à ça,
les cyclistes ont répondu.
Les associations de mobilité douce à Genève ont répondu par une autre pétition, par une manifestation. Donc j'ai quelques petits chiffres intéressants à vous communiquer.
Fais-nous rêver, Arnaud !
Voilà, donc la première pétition qui a été mise en ligne par les automobilistes contre ces pistes, a recueilli en 6 jours, donc mes chiffres ne sont pas tout à fait à jour, hein, donc en 6 jours, ils ont recueilli 5121 signatures.
Ouh !
Mais la pétition en faveur des cyclistes a recueilli en 4 jours 15659 signatures.
Ouh !
Sachant que... Alors attends, Pro Vélo a quand même dit qu'en moins de 24 heures, ils ont récupéré 10 000 signatures.
En moins de 24 heures, déjà plus que l'autre...
C'est ça.
Non, mais ce qui me rassure, c'est que quand tu vois sur des forums, sur les réseaux sociaux, des choses qui sont faites en faveur du vélo, qui sont mises sur des sites neutres, genre des journaux, tout ça, pas sur des sites spécialement où il y a des cyclistes qui vont... Le tombereau d'insultes qui tombe là-dessus, oui. Les haters. Et moi, du coup, je me dis, on est vraiment en minorité. Bah, finalement, la majorité silencieuse, elle est vraiment en faveur du vélo. Et ça me rassure, tu n'imagines
pas.
En fait,
le cycliste, tu le vois pas, tu l'entends pas, tu le sens pas, donc t'y penses pas.
Ouais,
c'est ça. Et pourtant, il est là.
Tu le sens pas, ça dépend combien d'heures il a pédalé. Hein.
Mais par rapport à un automobiliste avec son gros V8.
C'est vrai.
Alors toujours à Genève, en fait, les cyclistes, pour appuyer cette pétition, ils ont fait une grosse manifestation. Il y avait 1500 personnes à
qui
faire
se sont
le
rassemblés.
Tour.
Alors ouais, bon, il va peut-être y avoir quelques problèmes juridiques avec ça parce que c'était en plein...
Interdiction des rassemblements.
Voilà, ouais. Mais bon, il y a quand même eu 1500 cyclistes qui se sont rassemblés.
Mais j'ai regardé, ils étaient quand même assez distants. C'est pas comme les manifs habituels où tout le monde est assez. Là, c'est un peu... Sur les photos, on voit... Alors du coup, ça prend plus de place, mais on voit qu'ils respectaient autant que faire se peut les distances, toujours sur Genève. Ma femme travaille sur Genève, vous en avez rien à foutre, mais c'est pas grave. Ses amis et ses collègues qu'elle est au téléphone sans jamais les lancer là-dessus, c'est eux les premiers qui ont dit « Ouais, je vais me lancer au vélo, ouais, j'ai repris le vélo. » Elle était ébahie parce qu'elle dit « Mais à chaque fois que j'appelle quelqu'un à Genève, ils sont tous en train de me parler de faire du vélo. » Et même des gens, des copines à elle qui ont découvert ça, le fait de pédaler dans les rues de Genève et qui disent « Non, mais c'est n'importe quoi, moi je vais me mettre dans les associations, j'ai milité. »
Mais bon, il se passe pas des choses qu'à Genève puisque Lilou va nous faire le tour de l'Europe.
Bah oui, franchement, on a des bonnes nouvelles un peu partout. Hein. Au Danemark, sachez que c'est 30% des déplacements quotidiens qui sont effectués à vélo. À Copenhague, ce serait même un déplacement sur deux qui est fait à vélo. Et la politique parle de développer des autoroutes cyclables.
Mmh. Mmh. Tant qu'il n'y a pas de péage, c'est bon.
Ouais. En Allemagne, on est pas mal aussi. 11% des déplacements sont faits à vélo. Et là aussi, les politiques sont concernées et souhaitent atteindre 15% d'ici fin 2020. De nombreux investissements sont prévus dans les infrastructures, les services et la communication. En Hollande, grand exemple de pays cyclable, 43% de la population fait du vélo tous les jours. Niveau politique, il n'y a pas de relâchement. Le budget cyclable, qui est actuellement de 30 euros, devrait passer à 80 euros, 80 euros par an et par personne. Ensuite, en Espagne, c'est pas forcément un pays qui est connu pour le vélo, mais ça bouge également au niveau local. À Séville, par exemple, il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures et la ville est désormais dotée de 187 km de pistes cyclables sécurisées et séparées des voitures.
Des vraies pistes, hein, pas des bandes. Ouais.
Ouais. Et vous savez comment ça a été possible ?
Avec beaucoup d'argent, beaucoup de lobbying.
Et en supprimant des places de stationnement. Du coup, on est passé de moins de 1% des déplacements en 2005 à près de 8% en 2010.
Et quand on veut...
Wow. Ça fait une belle augmentation. En 5 ans. Hein. Mais c'est ça, du moment qu'il y a les infrastructures, après les gens, ils ont envie, ils sont heureux, ils le font.
Exactement. Et retour chez nous, à Bâle, où 16% des déplacements sont faits en vélo. Donc Bâle en Suisse. La politique dissuasive de l'automobile a fait réduire drastiquement le nombre d'automobiles détenus par les foyers. Et aujourd'hui, c'est moins de 50% des foyers qui ont une voiture.
Ah ouais, comme à Paris où c'est moins de, ouais. C'est moins de 40% à Paris. Ouais.
On redescend un petit peu au sud, on va en Italie où il y a très peu d'infrastructures cyclables. Mais ce pays est composé de nombreuses zones à trafic limité qui permettent également une pratique répandue du vélo. Vous savez, tous ces sites historiques où le trafic est restreint. Et du coup, ça permet aux cyclistes également de s'amuser. Et enfin, je vais terminer par la Finlande. À Helsinki, il y a plus de 1200 km de pistes cyclables. 12% des habitants circulent à vélo toute l'année. Alors maintenant, j'aimerais vraiment prendre cet exemple pour chez nous, quand l'hiver, on dit qu'il fait trop froid pour pédaler. Alors sachez qu'à Helsinki, les températures descendent parfois jusqu'à moins 20 degrés.
Il n'y a pas de mauvais temps.
Il y a quand même encore, voilà, exactement. Il y a quand même encore 12% des habitants qui continuent à faire du vélo par ce temps-là.
Ah, c'est des warriors.
Et toutes ces données, donc, tu les as tirées d'un reportage de l'ADEME, c'est ça ?
Exactement. Pour terminer, j'ai encore envie de vous parler d'un site suisse, vélocorner.ch. C'est un site de vente de vélos d'occasion, aussi neuf, et puis ça regroupe également les emplois dans le monde du vélo. Donc si on arrivait à centraliser toutes les informations, en tout cas pour la Suisse francophone par rapport au vélo, ce serait vraiment super. Donc vélocorner.ch pour toutes les ventes et emplois dans le monde du vélo.
On passe à la minute inutile.
Vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va.
Le dérailleur, comment s'en servir efficacement ? Je me souviens encore de mon enfance, lorsqu'avec mes amis nous comparions nos engins, je parle de nos vélos bien sûr, ils s'exclamaient fièrement « Moi, j'ai 3 plateaux et 7 pignons, ce qui me donne 21 vitesses ». Pourtant, aujourd'hui, je me pose la question, utilisons-nous réellement 21 vitesses ? Lorsque l'on cherche un peu, on découvre que bien qu'ayant 21 vitesses théoriques, dans la pratique, nous ne devrions en utiliser que 10. Et voici comment. Les 3 plateaux sont les roues crantées à l'avant, le plateau 1 étant le plus petit et proche du cadre, le 3 le plus grand et proche de la pédale. Les pignons sont les 7 roues crantées à l'arrière. Le 1 étant le plus grand, proche de la roue, le 7, le plus petit pignon à l'extérieur. Jusque-là, tout le monde me suit. Une utilisation optimale consiste à employer le plateau 1 avec les pignons 1, 2 et 3 lors des montées, le plateau 2 avec les pignons 3, 4, 5 et 6 pour le plat, et le plateau 3 avec les pignons 5, 6 et 7 lors des descentes. Dans ces configurations, la chaîne n'est jamais croisée, c'est-à-dire tordue, entre un plateau de gauche et un pignon de droite, ou inversement. On évite ainsi les frottements qui dissipent de l'énergie et usent prématurément la chaîne. Dans le vélo, comme ailleurs, ce n'est pas la taille qui compte, mais bien l'utilisation qu'on en fait.
Où va la vie, vélo va.
La capitale de la Suisse, comme tout le monde le sait, c'est Berne. Oui, amis francophones, c'est bien Berne. Ça n'est pas Genève ou autre chose. Et à Berne, il s'est passé des choses extraordinaires, Kika.
Oui, alors moi, je vais continuer de vous parler d'infrastructures vélo. Parce que c'est vrai que pour mettre en place un plan vélo, je pense que la première chose, c'est que l'environnement soit adapté. Donc en fait, il y a... une association suisse qui s'appelle ProVélo, ProVélo Suisse, ils délivrent un prix, c'est le prix Vélo Infrastructure. Et en 2020, ce prix a été justement délivré à la ville de Berne. Donc Berne, c'est une grande ville de Suisse, la 5e plus grande ville de Suisse, avec 134 000 habitants. Donc je pense que je vais faire sourire beaucoup de Français.
Ouais, la capitale, c'est que 135 000.
Énorme ville, 135 000 habitants.
La Suisse est un petit pays avec de petites villes, ou plutôt de grands villages, mais l'ambition est là. Et donc, si je vous parle de Berne aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de ses fontaines, ni pour vous parler du Palais fédéral, qui est un magnifique monument, soit dit en passant. Non.
Ni de ses ours.
Ni de ses ours, oui, parce qu'il y a des ours à Berne.
Ouais, l'office du tourisme, merci, oui.
La ville a reçu le prix Vélo Infrastructure 2020, qui est décerné maintenant justement depuis 6 ans. Donc c'est la 6e année qui délivre ce prix. Et c'est une distinction qui récompense les solutions innovantes et les programmes exemplaires en faveur du trafic cycliste. Donc la participation, elle est ouverte aux communes, aux cantons, aux bureaux d'études, aux entreprises de transport et aux entreprises privées. Et donc le lauréat du premier prix y reçoit 10 000 francs suisses. La ville, elle a obtenu ce prix car elle s'inspire du modèle nordique. Donc elle fait en sorte que la population puisse se déplacer à vélo confortablement et en toute sécurité, en mettant en place une infrastructure cyclable attrayante, sûre et continue. Elle espère justement devenir la capitale suisse du vélo, avec une part modale de la petite reine à 20% d'ici 2030. À titre de comparaison, la moyenne suisse est de 8%. Et Berne, ils sont déjà à 10%, donc c'est un peu plus haut que la moyenne suisse. Pour devenir cette capitale du vélo, la Cité des Ours a développé des aménagements spécifiques pour les cyclistes, comme par exemple la réalisation de voies express pour les vélos, des élargissements ou la coloration en rouge des bandes cyclables, ou encore des contournements au niveau des arrêts de bus. Parce qu'on sait que ça peut souvent être embêtant quand on se retrouve derrière un bus à vélo et puis qu'il y a les voitures à gauche, les gens qui traversent de tous les côtés. Donc ils règlent justement aussi ce problème.
C'est une bonne idée ça.
Et puis ils ont aussi mis à disposition de la population des vélos en libre-service, comme pas mal de villes l'ont fait également, et des pompes à vélo, des pompes à vélo fixes au bord des routes, et des espaces de loisirs dédiés au vélo également. Donc tout ceci a été mis en place très rapidement, c'est ce qui a été félicité par le jury. Et donc, je me dis que ça peut être possible de le faire rapidement avec pas forcément énormément de moyens et que beaucoup de villes suisses ou françaises ou ailleurs pourraient aussi prendre exemple.
On voit avec Covid, on voit avec le déconfinement que les villes, quand elles ont voulu s'y mettre à mettre des pistes cyclables, elles en ont mises. Donc, il faut arrêter de trouver toujours des excuses à deux balles. Oui, mais non, mais comment ? Non, on peut le faire tout de suite. C'est fait en quelques mois si on veut en mettre. Allez, chers copains néo-cyclistes, on a Mekabike avec nous qui va vous apprendre, vous donner des petits conseils sur la technique de votre vélo si vous commencez et vous voulez mettre des choses au point pour pédaler tranquillement. Salut Mekabike, comment ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Bah, ça va, impeccable. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, et notamment, je pensais, tu vois, à la hauteur de la selle, parce qu'on reconnaît ceux qui font pas du vélo souvent, ils ont tout le temps les jambes pliées. Comment on fait pour savoir à quelle hauteur on doit régler la selle par rapport à notre taille, quoi?
Il faut que quand tu es assis sur la selle, que tu mettes le talon sur la pédale la plus basse, il faut que la jambe légèrement fléchie.
Légèrement fléchie. Alors, presque tendue, bien droite, mais pas tout à fait encore.
C'est ça. Les jambes complètement fléchies, quand tu pédales, tu vas te fatiguer très vite. Et tu vas vite avoir des douleurs dans les genoux, alors que peu fléchis et le genou qui se détend complètement et qui travaille complètement, on va moins dans les douleurs et on fatigue moins les tendons.
Et quel conseil t'aurais à donner à ces néo-cyclistes sur la mécanique de leur vélo notamment ?
Bah déjà, avant de reprendre les vélos, vérifier si les freins fonctionnent, les vitesses fonctionnent. Redémarrer un feu avec les vitesses bloquées, c'est pas chouette. Descendre une côte sans frein, bah, c'est la mort assurée, quasiment.
Ouais.
Voilà. Quand on voit que le vélo n'est pas en très bon état, l'emmener chez un réparateur.
Merci Mekabike, à plus.
Ah, salut.
Et dans la continuité de Mekabike, Arnaud, tu as quelques conseils encore pour les néocyclistes se remettre en forme.
Mais oui, tout à fait, parce que ça y est, vous êtes enfin déconfinés et pendant ces 2 mois, vous avez pris conscience de quelques points à améliorer dans votre façon de vivre. Vous vous êtes rendu compte que votre voiture pour faire 5 km pour se rendre au travail, c'était un peu trop cher. Surtout que lors des 2 derniers mois, vous continuez à la payer sans pouvoir l'utiliser. Alors pourquoi ne pas se mettre au vélo ? Eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut pour ça ? Tout d'abord, un
vélo
en bon état, si possible. Vous avez suivi les conseils de Mekabike, vous avez réglé vos freins, la hauteur de selle, et si vous êtes en France, vous bénéficiez d'un chèque de réparation de 50 euros. Si vous n'avez pas de vélo, louez-en un pour essayer. Essayez avec assistance, essayez sans assistance, histoire de vous faire une idée, avant de reprendre cette activité. Équipez-vous aussi de gants et d'un casque si vous n'êtes pas en confiance. À titre perso, moi c'est gants tout le temps, depuis que j'ai fait une chute à vélo. Et casque seulement quand je suis avec mon fils.
Protège tibia, genouillère, protège coude, tous les kilos de skater.
Dorsale, tout.
Mais chacun est libre. Vous voilà équipé pour votre première journée de boulot, mais comment vous comporter sur la route ? Tout d'abord, profitez du week-end pour faire votre trajet tranquillement, identifier les difficultés, les points noirs qui sont sur votre itinéraire. Ensuite, roulez sur les pistes qui vous sont dédiées, quand il y en a, surtout jamais sur les trottoirs qui sont réservés aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.
Qui sont nos potes ?
Si vous trouvez des points difficiles, dangereux, cherchez une alternative. Parfois, prendre une autre rue ne vous prendra pas plus de temps et vous fera peut-être même découvrir de nouvelles choses. Si vous roulez sur la chaussée, ne serrez pas à droite, vous risqueriez de vous faire emportirer. Mais laissez une distance correcte entre le bord et vos roues. Une étude allemande a d'ailleurs montré que plus on prend de la place sur la route et plus les automobilistes nous laissent de place en nous dépassant. Pour ça, vous pouvez vous reporter à l'épisode 34 sur ce sujet.
Je profite de rappeler aussi que quand les gens rentrent dans un rond-point, il est impératif qu'ils se mettent au milieu de la route. Parce que ça, j'en vois tout le temps, qu'ils serrent à droite et les voitures, ils n'en ont rien à faire. Donc, en général, si la voiture, elle va tout de suite sortir du rond-point à la première sortie, le vélo, le cycliste, il est là et il se retrouve dans un grand stress et les voitures ne respectent pas. Je ne sais même pas s'ils en ont conscience, donc mettez-vous bien au centre.
Pareil, quand vous roulez vite ou en descente, et que vous prenez beaucoup de vitesse, roulez au milieu. Et les autres attendront. Parce qu'on peut se retrouver à 50 km/h hors agglomération, et ben les autres, ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils puissent dépasser correctement. Soyez aussi attentifs aux angles morts des camions. Ne dépassez jamais un camion en mouvement, parce qu'il ne vous verra pas. Et là, par contre, c'est fatal. Respectez le code de la route, les feux, les stops, soyez attentifs aux panneaux qui vous permettent de passer au rouge dans certaines situations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire accompagner au début par une amie, un ami, un collègue, une association. Et je vous conseille l'excellent livre de Jérôme Sorel sur le sujet « Vélotaf, mode d'emploi du vélo au quotidien » avec plein de conseils de façon très très marrante. Enfin, point le plus important de votre trajet, prenez du plaisir et souriez, parce que si c'est pour faire la gueule, autant rester dans une bagnole.
Soyez beau et sexy, donnez envie de faire du vélo.
À fond.
Alors il y a un autre front sur lequel il faut qu'on se batte pour qu'il y ait un petit peu moins de voitures en circulation, c'est en train d'arriver en ce moment, vu que les salles de cinéma sont fermées, il y a des entreprises qui se lancent dans le drive-in. Comme dans les films américains des années 50, la 60, on voit des grands parkings.
Je pensais pas que ça existait encore, ça.
Eh ben, t'as des boîtes qui font de l'événementiel, qui organisent ça. Et ils sont en train de faire de la pub partout. Et puis, il y a plein de villes qui commencent à être intéressées. Mais heureusement, il existe aussi des ciné-vélos.
Waouh, le cycle-in.
Voilà, le bike-in. Et du coup, Florian a été interviewé une association qui parle de ça. Et sachez qu'il y en a plusieurs en France, répartis dans toute la France, peut-être en Suisse, en Belgique, je ne sais pas. On va essayer de mettre tout plein d'associations qui font des ciné-vélos. Tu pédales et puis ça fournit l'électricité pour regarder le film. Mais ça peut se faire dehors aussi, donc en toute sécurité.
Du cinéma itinérant à vélo. C'est le projet de l'association Cinécyclo que va vous présenter tout de suite Vincent Rion.
Alors Cinécyclo, c'est une association de cinéma itinérant à vélo que j'ai créée en 2014 et dont le but est de faciliter un peu l'accès au cinéma dans des zones isolées, en même temps aussi au niveau de l'autonomie énergétique qui allie autonomie énergétique et puis vélo. C'est-à-dire que quand on fait une projection, en fait, il suffit de pédaler sur un vélo pour générer l'électricité et donc projeter un film.
C'est parti, je crois, d'un voyage au Sénégal.
Ouais, en fait, l'idée, c'était de voyager à vélo, de faire un grand voyage à vélo et en même temps de partager une de mes passions qui était le cinéma. J'ai associé ces deux passions-là, ces deux idées-là et je me suis embarqué avec du matériel habituel de voyageur à vélo, mais aussi de projection, un écran, c'était vraiment une toile blanche, un petit projecteur. Puis après, par la suite, ça s'est optimisé, amélioré, j'ai allégé le matériel et aujourd'hui voilà, on est une soixantaine de bénévoles dans l'association.
Tu as rapporté l'idée en France et les bénévoles dans l'association, ils sont chargés de faire quoi ?
On a vraiment des gens qui viennent de différents horizons puis avec différentes compétences de vraiment tous les âges. Il y en a qui vont être dans le comité de visionnage par exemple pour sélectionner les films, d'autres qui vont être dans le comité technique sur l'amélioration de nos kits de projection électriquement autonomes, d'autres qui sont davantage sur l'aspect vélo en fait, sportif, donc pour pédaler par exemple lors de nos tournées estivales, parce qu'on organise chaque année 2 tournées d'un mois en France notamment, puis d'autres qui vont être davantage sur l'aspect solidarité internationale et puis qui travaillent avec les Sénégalais pour pérenniser les activités de projection là-bas.
À l'étranger vous en faites plusieurs ?
Suite en fait à la tournée sénégalaise puis à la tournée équatorienne qui s'est passée en 2018-2019, on a des groupes de volontaires équatoriens puis sénégalais qui s'impliquent toute l'année sur ces projections. Les projections donc peuvent continuer grâce à eux mais aussi grâce à l'implication de certains Français voilà, qui soit sont allés en Équateur, parlent l'espagnol couramment puis ont envie de s'impliquer. Ou alors, pareil pour le Sénégal, des gens qui ont le Sénégal ou l'Afrique dans leur cœur et qui cherchent des moyens de rester un petit peu connectés avec ce continent.
Si on est en France, qu'on veut faire une projection avec ce type de vélo,
par chez nous, comment on fait ?
Cinécyclo, on peut trouver ça sur internet tout simplement en tapant cinécyclo.org dans notre barre de recherche. On organise effectivement des projections soit sous la forme de tournées d'un mois durant l'été, pour le moment on est en Bourgogne et dans le Loir-et-Cher, soit sous la forme de projections ponctuelles. Là on travaille davantage avec soit des associations, soit des mairies, des écoles, d'autres organismes pour mettre en place ces projections-là. Il suffit de nous contacter, on a aussi tout est sur internet et on sera à votre disposition pour vous guider dans la mise en place de la projection.
Je te remercie Vincent et puis je vous dis bonne tournée alors.
Pour rester dans le thème du cinéma, Lilou, t'as un film dont tu aimerais nous parler, je crois.
Oui, Pee-wee's Big Adventure, qui s'appelle en français Pee-wee Big Adventure, donc le titre n'est pas vraiment différent. Un film de 1985 pour nos amis français, qui est le premier long métrage de Tim Burton. Alors moi je l'ai regardé, je savais pas que c'était un film de Tim Burton, donc pendant tout le film j'avais cette sensation, c'est vraiment un film bizarre, mais il est assez chouette quand même, mais c'est bizarre. La musique est de Danny Elfman, donc une super ambiance musicale. Je vous raconte un petit peu ce film extraordinaire. Puis oui, c'est un homme enfant, un peu excentrique comme ça, qui vit dans une maison avec plein de jouets. Donc le film, ça commence un matin classique dans la vie de Pee-wee, il se lève et puis il met ses petites pantoufles lapins avec lesquelles il joue à renifler une carotte en plastique comme ça. Et puis il fait ses étirements, il joue avec son train comme ça. Ensuite il descend à l'étage par une barre de pompiers et puis dans sa cuisine, il y a un petit déjeuner qui est servi par un gigantesque mécanisme automatisé assez rigolo. Ensuite Pee-wee va dans sa salle de bain, il se pèse avec une balance super rigolote qui lui délivre non seulement son poids mais un message personnalisé, et ce jour-là elle lui dit « reste à la maison ». Mais Pee-wee ne porte pas grande attention à ce message et décide d'aller faire un tour en ville. Et c'est là qu'on découvre le vélo de Pee-wee. Alors c'est vraiment un vélo magnifique, il est vintage, rouge et blanc brillant, avec un cadre renforcé un peu style mobilette, il y a des top cases à l'arrière et sur le dessus et sur les côtés. Et puis tout un tas de fonctionnalités particulières qui font de son vélo un véhicule hyper spécial. Pee-wee est super fier de son vélo, mais celui-ci est très convoité, notamment par son voisin. Donc ce jour-là, Pee-wee va faire une course et en revenant, son vélo a été volé. C'est ça sa grande aventure, en fait c'est l'histoire du film, c'est la quête pour retrouver son vélo et il va effectivement vivre un tas de choses et faire de nombreuses rencontres tout aussi loufoques les unes que les autres. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit beaucoup de vélos, donc ça se passe dans un monde où le vélo est très populaire et puis c'est des jolies scènes à la Burton comme ça où tu vois les gens passer dans des vélos un petit peu atypiques et puis avec un côté bien délirant aussi, notamment des scènes où Pee-wee rêve ou plutôt il cauchemarde, qui retrouve son vélo dans des états incroyables, enfin ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé.
J'ai vu les quelques images sur le net. C'est un film barré, hein, vraiment barré.
Complètement délire. Ouais, ouais, vraiment. Il y a des scènes très, très drôles, quelques-unes marquantes, notamment juste avant qu'il se fasse voler son vélo. Donc, quand il part faire la course, il cadenasse son vélo et puis donc il ouvre un de ses top cases et il sort une chaîne de mètres et de mètres de longueur. Puis après, tu le vois juste s'affairer autour de son vélo. Puis quand elle a fini de le canasser, le vélo, il est couvert de chaînes. Comme ça, donc c'est assez drôle. Une autre scène aussi où, à un moment donné, il se fait aider par une bande de Hells Angels et il lui prête une moto pour partir. Mais bon, Pee-wee, il a fait que du vélo dans toute sa vie. Et le départ de Pee-wee sur la grosse moto, ça, c'est vraiment, c'était vraiment assez drôle. Donc voilà, un film assez dingue sur une photographie colorée, décalée en même temps, tout comme les personnages du film qui sont complètement barges aussi. Donc voilà, un gros délire si vous avez envie de voir du vélo en action. Voilà, je vous recommande La Grande Aventure, enfin Pee-wee Big Adventure.
Et puis si ça peut te donner encore plus de sourire, Lilou, tu sais qu'il y a une suite à ce film qui s'appelle Pee-wee's Big Holidays.
Non.
Et qui est, c'est assez récent.
J'ai un peu peur des suites, hein, donc je ne sais pas trop comment réagir.
Ça a l'air
mitigée.
Pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est dans le même genre.
Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois.
Je ne sais pas s'il faut autant de vélos. Avant de conclure l'émission, on vous relance une petite annonce pour le concours qu'on organise avec Vélook. Vélook, le site où vous pouvez, qui est spécialisé dans les vélos d'occasion. Vélook lance un concours de nouvelles. Si vous voulez écrire une petite nouvelle sur de science-fiction, Et puis, cette nouvelle sera mise en ligne sur le site de Velook et on la lira à l'antenne. Vous allez voir sur la page Facebook de Velook, qui a toutes les conditions, c'est « Et si le vélo disparaissait ?» Le vélo a disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Écrivez une nouvelle à partir de ça. On sera super content d'avoir une petite nouvelle fantastique sur le vélo. Allez voir donc sur velook.fr et sur la page Facebook de Velook. La musique, c'est In the Backyard avec le titre Supernatural. Je le prononce mal, Supernatural, c'est un petit peu mieux.
C'est bon, ouais.
D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo! Can you tell, please, what will happen when you leave us on the edge? Can you tell you'll have more flavors when you've packed all your luggage? Like a flower in the desert, you're supernatural. You know, babe, you don't feed lovers throwing dust to them. By your beds.